Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique. On retrouve Caroline Entrec du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Et toujours avec nous Bénédicte Bougnol du Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte, Angers-Vaudan. Bonjour Béné.
Bonjour.
Alors Caro, on va aller où aujourd'hui ?
Alors on va aller à la limite du Pays d'Art et d'Histoire de la Lozère et on espère que tu as le cœur bien accroché parce que ça va tourner.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entreg.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte Angers-Vaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Alors effectivement, il fallait avoir le cœur bien accroché parce que c'est un peu tourné. On est arrivé où ?
Alors, nous sommes dans un carrefour entre Margeride, Mont-Lozère et Cévennes. Même entre deux failles géologiques à l'endroit où un bout du massif granitique du Mont-Lozère se détache pour laisser passer le schiste des Cévennes. Et donc, nous sommes à Villefort. Et du coup, c'est le lac de Villefort qui souligne vraiment cette rencontre dont parlait Bénédicte entre le Mont-Lozère, la Borne, la montagne du Goulet. On connaît un peu les lieux parce que on est à la fin de la vallée de l'Altier, à l'ouest où on avait parlé du château de Castanet, si tu t'en rappelles, et au nord on avait aussi parlé du plateau de la gare de Guérin avec le plateau de la Roure, et ensuite un peu plus haut la Margeride, et que nous avons également déjà visité. Et à l'est, nous ne l'avons pas encore visité, mais il y a une très belle vallée qui est la vallée du Chassezac, qui est un site inscrit. C'est une vallée encaissée et assez sauvage sur la partie Lozère, mais qui s'élargit un petit peu en allant vers l'Ardèche. Et puis enfin au sud, on a deux autres unités paysagères. On a la haute vallée de la Cèze, en direction de Génolac, qui est assez typique des Cévennes qu'on appelle des serres et des vallates, donc vraiment avec les monts et les vallées assez encaissées. Et enfin, les pentes du mont Lozère, avec des versants assez abrupts, mais qui offrent un très beau paysage sur les Cévennes gardoises.
Oui, alors cette position de carrefour, elle se retrouve aussi dans l'histoire de la ville, qui a été toujours un lieu de passage. Alors Ludo, encore un petit quiz. Si je te dis Régordane, tu penses à quoi ?
Ah oui, la visite de la gare de Guérin.
Exactement. Le chemin de Régordane, c'est la partie lozérienne d'une importante route qui reliait au Moyen-Âge le Bas-Languedoc et l'Auvergne. Alors, il passe à la gare de Guérin, mais il passe aussi à Villefort. Et c'est une voie très ancienne qui est devenue une draille pour les transhumances. Les Romains l'ont aussi sans doute empruntée pour transporter les métaux qu'ils extrayaient dans les mines qu'ils exploitaient aux alentours. Et elle va devenir un axe majeur au Moyen-Âge. Le chemin de Régordane, c'est l'itinéraire le plus à l'ouest du royaume dans l'histoire française, après que l'Empire carolingien place la vallée du Rhône dans l'Empire germanique. Voilà, alors ce chemin, il va faciliter les échanges et le commerce entre la Méditerranée et une partie des terres du royaume de France. Et de nombreux muletiers vont l'emprunter.
Et du coup, ces muletiers, on les appelait aussi ici les Régordans ou les Rigourdiers. Et ils transportaient l'huile, le sel et également le vin.
Alors là, justement, on est sur le chemin. Il y avait une petite plaque. Cette partie du chemin était inaugurée en 2007. On est sur le chemin de Régordane. Il passait par ici réellement ?
Exactement, oui. Et là, pendant toute la visite, on va suivre le tracé du chemin historique. Oui. Alors, c'est également un chemin religieux qui mène les pèlerins à Saint-Gilles. Alors, pour l'histoire du chemin de Régordane, c'est lorsque la peste et la guerre de Cent Ans vont dévaster le pays que la route va se dégrader et le chemin va être délaissé au profit de la vallée du Rhône.
Et donc là, justement, on est sur l'entrée de Villefort. Le chemin de la Régordane, ça marque l'entrée de Villefort. On est sur la rue de Rome. On est même sur le pont Saint-Jean dont vous parlera Bénédicte tout à l'heure. En dessous de nous, c'est le ruisseau de Payères. Et Villefort, ça a toujours été un lieu de transit, de passage. C'est même la première gare de Lozère, avec la ligne qui va jusqu'à la Bastide et les mines du bassin d'Alès.
La ville de Villefort, elle a connu plusieurs époques d'évolution en fonction justement de ces nouvelles mobilités. Donc on a la Régordane, on a ensuite le quartier de la gare qui s'est développé et la route nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'emprunte plus ce chemin de Rome puisque la route anciennement nationale qui est juste derrière nous a été créée en 1934.
Alors peut-être un petit mot sur le pont Saint-Jean sur lequel on se trouve. Alors le pont de Saint-Jean, il permet de traverser la rivière de la Paillère. Et c'est un pont à deux arches. Alors les arches sont inégales, hein, avec un profil à dodane, et il date certainement du XIVe siècle. Et il servait de lien entre le bourg et la chapelle Saint-Jean.
D'ailleurs Ludo, est-ce que tu trouves autour de toi la chapelle ?
Ben oui. C'est noté dessus. Chapelle Saint-Jean. Oui, oui, on la voit. Juste, j'avais une question concernant cette chapelle. Le toit, on dirait des loses en plastique. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, cette chapelle, elle a été beaucoup transformée dans la toiture qui n'est pas en lose. C'est une tuile de terre cuite imitation lose. Et surtout, elle a été transformée en habitation. Et ça, on le voit bien sur les fenêtres. On devine cette architecture de chapelle avec les contreforts que l'on voit sur la façade principale. La porte voûtée en plein cintre, qui a été refermée par une autre porte en plein cintre. Et surtout, ce qu'on voit sur le côté, c'est ce beau chevet, hein, où on voit vraiment sa fonction initiale de chapelle, que bien sûr, elle a perdue.
Oui, c'est très beau de l'extérieur.
Oui, alors tu sais, Ludo, je te le disais tout à l'heure, le chemin de Régordane, c'est aussi un chemin religieux. Et cette chapelle, elle est construite sur la route du pèlerinage de Saint-Gilles, en fait. Au Moyen-Âge, les pèlerins allaient vénérer le tombeau de Saint-Gilles dans le Gard. Et ils venaient de tous les coins de France et même d'Europe. Et c'était alors un pèlerinage très important, un des plus importants de la chrétienté après celui de Jérusalem et de Rome. Et donc la chapelle Saint-Jean à Villefort accueillait des pèlerins en quête d'un toit pour la nuit. Et il y avait même aussi à côté un bâtiment accolé qui servait d'hospice pour accueillir les malades.
Mais si tu veux, Ludo, on peut continuer à avancer le long de la Régordane.
Allez, allons-y. À quelques encablures, on est à la rue de la Bourgade, toujours sur le chemin de la Régordane.
Oui, donc là, Bourgade, ça veut dire le bourg. Donc c'était vraiment le faubourg du cœur plutôt historique de Villefort qu'on verra un petit peu plus loin. Et c'était vraiment la rue commerçante et artisanale un peu de Villefort. On va retrouver dans ces rez-de-chaussée pas mal de bâtiments en voûte ou de linteaux sculptés, comme on le voit juste au-dessus de nous avec le linteau du ferronnier.
Alors, on connaît mal les origines de Villefort. Hein. Dans les textes anciens, on retrouve la ville sous le nom de Villa Montis Fortis. Alors, cela fait peut-être référence à une ancienne exploitation agricole romaine. Mais on ne connaît pas exactement l'origine de la ville. On sait simplement que la ville va vraiment se développer au Moyen-Âge grâce à l'influence du chemin de Régordane. Et alors, le bourg est alors dominé par un château qui est situé sur les hauteurs du Collet et qui garde le chemin de Régordane, mais il ne reste plus rien aujourd'hui de ce château.
Et comme il ne reste plus rien de cette rue commerçante, il faut vraiment s'imaginer que c'était commerçant.
Il faut se l'imaginer, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui cette rue, elle paraît un peu déserte, un peu vide, mais parce qu'il y a la route nationale qui est venue se créer de manière parallèle. Ici, on avait vraiment un axe fort et c'était l'unique accès à la ville de Villefort. Et donc on voit ici une typologie un peu de village-rue. Hein. On a des bâtiments qui font souvent du R+2, mais qui ont, pour les maisons de droite, tout un jardin sur la partie haute. Donc ces maisons, c'est vraiment une architecture facilement reconnaissable, avec ce qu'on appelle les maisons échoppes, donc les maisons un peu boutiques, hein, avec des porches en rez-de-chaussée, on va s'avancer, on va pouvoir les voir, qui étaient d'anciennes auberges, des boutiques, de l'artisanat. Le linteau sculpté dont on a parlé juste ici, qui témoigne de l'activité du coup des occupants. Et on va retrouver le long de la rue, on va s'avancer un peu, plutôt des constructions, plutôt renaissance avec des croisées, etc. Cette partie-là, on est plutôt sur une architecture 1800-1850. Voilà. Mais plus on va avancer dans la rue et plus on va avoir une architecture moyenâgeuse.
Médiévale, tu veux dire ?
Médiévale, oui. Bien sûr, Nelly.
Donc un peu plus loin dans la rue, on retrouve ces linteaux sculptés après celui du ferronnier en début de rue.
Oui, là on a deux linteaux sculptés, donc un juste devant nous qui indique 1620 et l'autre un peu plus loin qui indique 1617. Et donc ce qui est intéressant par rapport à ces rues commerçantes dont on parlait tout à l'heure, c'est que là on est au numéro 13 hein, et on voit bien les deux voûtes. Avec d'un côté deux grandes portes qui servaient à stocker et de l'autre une voûte mais avec une porte centrale qui servait là plutôt à exposer les commerces. Et puis à l'étage une grande ouverture qui devait certainement être une fenêtre à meneaux, même si aujourd'hui elle a complètement disparu. Voilà, donc on retrouve ici sur le numéro 11 et le numéro 13 vraiment une typologie assez bien conservée d'architecture commerçante de cette époque-là.
Et alors juste après, on peut voir la maison natale d'Odilon Barrault. Est-ce que tu connais Odilon Barrault ?
Non, pas du tout.
Ouais, c'est un personnage historique assez important et un peu méconnu. Et il est né en 1791 et il est mort en 1873. C'est un avocat et un homme politique important au 19e siècle.
Allez, on a tourné le long de la route principale, donc tu expliquais, hein, qui a été construite bien plus tard et où les commerces sont implantés.
Exactement, on est sur la place du Bosquet. Et c'est à partir de 1840 qu'on va modifier la topographie de la ville. En fait, on va détruire les anciennes murailles et les portes fortifiées. On va couvrir les deux ruisseaux qui coulaient au centre du village, le ruisseau de Cédariès et le ruisseau des Chauffours, parce qu'en fait, leurs utilisations comme égouts les rendaient insalubres. Et donc, on a préféré les voûter par mesure d'hygiène. Et en fait, tous ces travaux vont permettre la création d'un nouvel axe et même la création d'une belle esplanade ombragée avec des platanes, la place du Bosquet. Ça lui donne d'ailleurs un aspect un peu des villages du Sud. Alors les travaux vont être achevés en 1934 et comme tu le disais, hein, la route nationale qui forme l'actuelle avenue des Cévennes va devenir l'artère principale de Villefort.
Et on voit là, ce qui est remarquable sur cette place, c'est tout cet alignement de magnifiques platanes qui sont taillés ce qu'on appelle en chandelier. Elle accueille aujourd'hui les principaux commerces de la ville et surtout le marché du jeudi matin qui est très fréquenté et très renommé. On a également la confrérie de la Peyroulade qui vient faire sa déambulation tous les mois d'août et qui amène beaucoup de personnes. Est-ce que tu connais la recette de la Peyroulade ?
Non, du tout.
Alors c'est une soupe d'orge perlée qui est agrémentée de pieds de cochon, de jarret de porc, de jambon et d'un peu de légumes et de pommes de terre. Voilà. Donc aujourd'hui, cette place, elle est complètement saturée, on le voit, par les voitures. Les pauvres platanes, ils n'ont pas de quoi respirer, ils sont noyés dans le goudron. Mais il faut imaginer vraiment à l'époque quelque chose qui était plus un lieu vraiment de vie, de terrain de pétanque, des bancs au milieu de la place, les gens qui déambulaient, etc. Donc voilà, c'est un projet peut-être en devenir pour la commune, mais voilà, cette esplanade, ça a vraiment créé un lieu de détente, de rencontre, un lieu convivial à partir de 1934. Quoi.
Est-ce qu'il a été remplacé ce lieu actuellement ou c'est toujours ici qu'on se retrouve ?
C'est beaucoup ici qu'on se retrouve quand même, parce que tous les commerces sont là, hein, les cafés, le tabac, la poste, la boulangerie, la charcuterie, les fruits et légumes, donc on a vraiment tous les commerces dans cette zone-là. Et par contre, le terrain de pétanque, lui, a été réaménagé sur un nouvel espace qui a été créé suite à l'aménagement de la gare, notamment, en lien avec les collèges, donc ils ont créé un espace sportif avec les terrains de pétanque directement là-bas.
Et si je peux ajouter, le jeudi matin, il se tient le marché et ça amène une foule importante. Et c'est un marché très ancien hein, parce que depuis 1511, il y a le marché à Villefort. Alors, il ne se tenait pas sur la place du Bosquet au Moyen-Âge, hein, mais il se tenait sur plusieurs places en fait. Il était tellement important que plusieurs places étaient occupées par le marché.
Plusieurs places, c'est-à-dire ?
Oui, bah, il y avait plusieurs places. Enfin, le marché se tenait sur plusieurs places, hein, notamment la place de l'Ormeau, la place du Portalet. Et on y pouvait, sur ces places, lors des marchés, y vendre du bétail, de la viande, des légumes, des graines. Et surtout, on est quand même dans le pays de la châtaigne. Il y avait un marché proprement dit pour les châtaignes. Et on peut même préciser qu'il y avait les marchés, mais aussi des foires. Villefort était réputé aussi pour ses foires et on pouvait en compter jusqu'à 14 dans l'année.
Parce que c'est vrai que la position de Villefort, elle paraît un peu isolée pour quand on vient de Mende, mais en fait c'est une vraie centralité, à la fois pour la partie Lozère, mais aussi une partie de l'Ardèche, et également une partie du Gard. Donc vraiment, on a un bassin de vie très important sur Villefort, qui a aujourd'hui environ 700 habitants, mais qui a un bassin de vie qui fait quasiment le double.
Et si je peux ajouter, hein, donc là on est en plein hiver et donc Villefort est assez calme, mais il change vraiment vraiment d'aspect en été où il y a énormément de tourisme, mais on va en reparler un petit peu plus tard.
Il faut voir que la commune de Villefort, elle fait à peu près x4 l'été.
Allez, on remonte cette route nationale et on se retrouve devant quel bâtiment, Caro ?
Alors là, c'est l'imposant hôtel Balm. C'est un bâtiment typique du XXe siècle. On y trouve de nombreux décors, les balustrades, les corbeaux aussi sculptés devant la porte. Ça vient d'un petit côté un peu station thermale. On a toutes ces corniches blanches qu'on retrouve à chaque niveau. Et c'était vraiment un hôtel un peu haut de gamme qui montrait la richesse de Villefort à cette époque-là, hein. Donc vraiment à l'avènement du tourisme.
Et oui, parce qu'il correspond à une nouvelle expansion de la ville, hein, qui est liée au développement du tourisme suite à la création de la route nationale au début du XXe siècle. On peut y manger une excellente crème brûlée aux champignons. Ce lieu a vraiment un petit cachet parce qu'il est chargé d'histoire, mais aussi il est très charmant.
Et on a un peu le même type d'architecture à l'hôtel du Nord, qu'on n'a pas été voir, mais qui se trouve aussi place du Bosquet, qui est aujourd'hui en friche. Et c'était vraiment deux établissements de villégiature privés de toute une bourgeoisie du sud de la France. Parce que c'était notamment accessible en train.
Allez, après l'hôtel Balm, juste à côté, il y a la rue de l'église, où on peut également retrouver la mairie.
Oui, donc c'est la rue la plus ancienne de Villefort, toujours sur le chemin de la Régordane, où on retrouve vraiment un patrimoine médiéval qui est très intéressant, médiéval et pas que, mais du coup Bénédicte va nous en parler un peu plus.
Et oui, c'est le long de cette voie qu'on retrouve les maisons les plus anciennes. Alors là, on est devant la maison dite gothique, qui est vraiment la plus ancienne maison du village. Elle est inscrite au titre des monuments historiques. Et si tu regardes bien, elle présente à l'étage deux grandes baies jumelées. Et elles sont en arc brisé. Et elles reposent sur des petites colonnettes. Elle est très travaillée, en fait, même si elle est elle est plutôt en mauvais état. Mais voilà, ça montre ce que pouvaient être les maisons à l'époque du XIVe siècle. Parce que vraisemblablement, elles datent du XIVe siècle. Mais on ne connaît pas du tout l'histoire de cette maison. Et alors juste à côté, enfin de l'autre côté de la rue, on a aussi la mairie qui est installée dans un ancien hôtel particulier qui date lui probablement du milieu du XVIIe siècle. Et alors il se compose de trois corps de bâtiments qui entourent une petite cour. Et cette cour, elle est séparée en fait par un mur d'enceinte. Et au rez-de-chaussée, dans cette petite cour, on a un escalier en vis qui est très intéressant puisqu'il est enfermé dans une tourelle en surplomb et qui est portée par une trompe d'angle.
Donc peut-être pour le décrire à nos auditeurs, ce que l'on voit en fait, c'est comme une petite tour d'escalier, mais qui vient en porte-à-faux. On n'a pas de tour au rez-de-chaussée et elle vient se décaler à l'étage, formant voilà une petite tourelle un peu en surplomb de l'entrée. Et ce qui est très étonnant à Villefort, c'est que juste là, nous avons la mairie de Villefort et juste après, la mairie de Pourcharès.
Et pourquoi il y a la mairie de Pourcharès juste à côté?
Puisqu'en fait, Pourcharès, on le verra peut-être dans une autre visite sur les lacs, mais c'est vrai que Pourcharès n'a pas de centralité en soi, c'est beaucoup de petits hameaux. Donc ils se sont installés ici, sur le site de Villefort.
Du coup, j'imagine que l'église n'est pas loin.
Eh bien, si on se retourne, juste derrière la maison gothique, on a la grande église de Villefort, qui est une église assez récente, une église 19e, puisque l'église historique avait été démolie. On ne sait pas exactement où était son emplacement. Il y a des photos, mais on ne sait plus vraiment où est-ce que se situe. Donc au 19e, cette église se fait là. Et dessous, par contre, on a encore des ruisseaux qui passent.
Voilà, on va clôturer cette visite. Est-ce qu'il y a une actualité sur Villefort?
Ah oui, il y en a plusieurs. Donc déjà, sur les projets de la commune, il y a une réflexion autour de la requalification de l'Occidentale du Nord, dont on a parlé, ces fameux hôtels du début du XXe siècle, et une étude sur le réaménagement de la place du Bosquet. Ils sont en train également de refaire tout leur réseau d'assainissement et de retravailler l'avenue de la gare que nous avons traversée entre la rue de Rome et la rue de la Bourgade.
Oui, alors on peut ajouter aussi que Villefort fait partie depuis 2 ans à peu près du Pays d'Art et d'Histoire. Et donc cette année, on aimerait vraiment venir proposer des visites ici et on va essayer de célébrer les 150 ans de la mort d'Odilon Barrot.
Une anecdote pour Brillant Société?
Alors, on a deux anecdotes. Ludo, as-tu déjà entendu parler de l'affaire Conti?
Même l'affaire Conti.
Ça me dit quelque chose.
Ça te dit quelque chose? Le 24 août 1977, Pierre Conti et deux autres hommes vont venir braquer le Crédit Agricole de Villefort. Alors l'affaire va mal tourner, puisqu'elle se termine par la mort de 3 personnes, dont un gendarme. Et alors Conti est toujours recherché puisqu'il n'a jamais été retrouvé. Et 41 ans après, il est toujours en cavale.
C'est énorme.
Et du coup, pour continuer cette histoire un peu de mafieux, de braquage, on a ici à Villefort le fameux Hôtel du Nord dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et il servait aussi de repli discret pour la mafia marseillaise avec une entrée de garage où on pouvait sortir à l'abri de tout regard.
Eh bien, merci beaucoup les filles. Du coup, on va aller où le mois prochain?
On va se baigner.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.